Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mboujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous retrouver dans ce nouveau numéro des Paroles aux Auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur la fréquence de la paix. À l'initiative du réseau ERAC, la CENCO, Conférence Épiscopale Nationale Congolaise, a tenu une conférence de presse à Bruxelles le mardi 26 septembre 2017 dernier. Dans un dossier de plaidoyer formulé à l'issue de ces assises, la CENCO demande notamment aux partenaires de la RDC d'harmoniser leur prise de position vis-à-vis du gouvernement congolais en exigeant l'organisation des élections conformément à l'accord du 31 décembre et d'accompagner le peuple congolais dans ses aspirations légitimes d'un Congo véritablement démocratique. Quelle lecture faites-vous de ces plaidoyers? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 49 69 ou bien au 09 97 06 63 30 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie en ce début de semaine. Sylvain, j'ai parlé plutôt de héritier Sidi Akala qui était à la mise en onde, Pierrot Lamegi et Nico Kalambay à la réalisation de ce programme supervisé par Martin Sebujangwe et coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Envie de vous faire une idée très claire sur ces recommandations. Il est dit dans les dossiers de plaidoyer que, au fait, la CENCO souhaiterait que le partenaire de la RDC puisse, au fait, être un peu regardant. Dans le premier point, il est mentionné que les partenaires doivent harmoniser leur prise des positions vis-à-vis du gouvernement congolais en exigeant l'organisation des élections conformément à l'esprit et de l'accord du 31 décembre 2016. Et au deuxième point, d'intensifier des pressions sur toutes les personnalités congolaises qui feraient obstacle au processus électoral ou qui se rendraient coupables de graves violations des droits des hommes. Au troisième point, de porter une attention particulière aux conséquences sociales et humanitaires de la crise qui affecte la RDC. Ensuite, pour le quatrième point, la CENCO souhaite que les partenaires puissent soutenir les organisations de la société civile congolaise qui militent pour une alternance démocratique, pour le respect des droits humains et pour l'éducation civique de la population. S'agissant du cinquième point, il est noté que la CENCO demande aux partenaires d'accorder sous certaines conditions un appui technique et financier à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et enfin, au sixième point, la CENCO demande aux partenaires d'accompagner le peuple congolais dans ses aspirations légitimes d'un Congo démocratique, respectueux des libertés fondamentales et assurant le bien-être de tous. Une fois encore, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Bienvenue dans cette émission. Richard, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Gilles.
Quel est votre commentaire? Quelle lecture faites-vous de ces plaidoyers?
Gilles, en commençant, je dirais que c'est la conscience qui manque aux politiciens congolais. Car, par rapport au plaidoyer des évêques et de la CENCO, j'ai touché à trois points. Celui relatif à la pression que doit exercer la communauté internationale sur le politique congolais. Celui relatif à la conscience aussi qui doit animer les Congolais, même pour prendre possession de leur pays. Et celui relatif à la société civile. Jure, vous êtes avec moi et vous connaissez la situation de notre pays. Et je dirais que la politique congolaise est animée par des personnes qui ont une mauvaise volonté, sur tous les points. Que ce soit les gens de la majorité présidentielle, que ceux de l'opposition. Vous vous rendrez compte que le président Kabila, ou soit les autorités congolaises, ont une feuille de route qui a été adoptée par tout le monde le 31 décembre 2016, mais cette feuille de route n'est pas respectée. à 90%. Alors, je dirais quoi? Faire pression au président Kabila? Non, parce que personne ne peut lui faire pression. C'est juste sa conscience personnelle et son sens du bien-être, car il est une personne humaine et il est animé d'une conscience, contrairement à un animal qui a l'instinct. Par rapport à la population congolaise, je dirais que nous devons nous prendre en charge. Nous devons faire de sorte que notre pays, notre constitution, une constitution chèrement acquise après des décennies de guerres, des décennies de dictatures et des décennies de violences partout au pays, nous avons adopté, nous avons pris, nous avons accepté comme constitution celle du 18 février 2006, mais nous devons faire de sorte qu'elle soit respectée partout, car personne n'est au-dessus de la loi. La société civile JR, c'est une société civile poreuse. Elle manque d'objectivité. C'est une société civile qui s'aliène derrière les différents regroupements politiques de telle sorte qu'ils obtiennent juste quelque chose. C'est vraiment ma lecture.
Merci beaucoup.
Les évêques de la CENCO peuvent faire ce qu'ils jugent bon. Mais faire pression au président Kabila, je trouverais que c'est vraiment inopportun et irréaliste.
Merci beaucoup, Richard, d'avoir appelé de Kinshasa. Pour vous, c'est un problème de manque de conscience politique et vous avez axé votre intervention sur trois points, notamment la question relative à la pression à exercer aux autorités du pays et la prise de conscience des uns et des autres. Et un troisième point, vous avez beaucoup plus martelé sur la société civile. La politique congolaise, vous l'avez dit, est animée par des politiciens de mauvaise foi. Ils ont une feuille de route adoptée depuis le 31 décembre 2016 et cette feuille de route n'est pas toujours exécutée ou elle a été exécutée à 90% selon les uns et les autres. Alors vous ne vous inscrivez pas dans la logique de la pression comme le demandent les évêques de la CENCO, mais s'agissant du peuple congolais, vous rappelez aux uns aux autres qu'ils doivent normalement se prendre en charge pour récupérer leur souveraineté. Mais en ce qui concerne la société civile, vous souhaitez vous souligner que cet organe fonctionne dans le manque, avec un manque d'objectivité. Merci beaucoup, Richard. Ifaso, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Radio Kapi. Bonjour à tout le monde.
Quelle est votre contribution?
Oui, premièrement, j'ai sali l'intervention de M. Richard. JR, vraiment, les évêques de la CENCO n'ont que raison de faire, de dire ça. Mais moi, je pense que le problème ne relève pas, ce n'est pas le problème des partenaires, mais le grand problème qui est là, c'est le problème du gouvernement. Le gouvernement, vraiment, a un cœur manifeste pour qu'il n'y ait pas l'organisation des élections tout en respectant l'accord du 31 décembre 2016. J'ai la résolution 2348 du 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les participants, nous avons, là, je vais citer les partenaires. Nous avons les Nations Unies, l'Union Européenne, l'Union Africaine, l'Organisation Internationale de la Francophonie et la Communauté de Développement de l'Afrique australe. Dans cette résolution, c'était le 19 décembre juillet, ils se sont résolus à appuyer le respect de l'accord du 31 décembre. Ils ont même créé coordination qui va appuyer la CENI d'organiser les élections tout en respectant l'accord du 31 décembre. Oui, JR, c'est ça. Et moi, je pense que si on va prendre cette coordination qui a été mise en place comme ça, c'est la façon de la communauté internationale ou des partenaires, c'est leur façon de faire pression au gouvernement. Maintenant, c'est le gouvernement qui a manifesté la mauvaise foi pour qu'il n'y ait pas l'organisation des élections. Pourquoi? Si je veux prendre la CENI, normalement, dans l'article 73 de la Constitution, stipule que le scrutin présidentiel est convoqué par la CENI 90 jours avant l'expiration du président en exercice. Hier, c'était le 30, la CENI n'a pas convoqué le scrutin présidentiel. Puisque si on faisait du 30 jusqu'au 31 décembre, ça allait faire 90 jours. La CENI n'a pas convoqué le scrutin présidentiel. Vous voyez que ce n'est pas vraiment le problème des partenaires, etc., mais le problème qui est là, que la population congolaise doit se prendre en charge. Comme
Vous l'avez dit, Ifaso, en évoquant d'ailleurs la résolution 2348. Donc, estime que la CENCO, en tout cas, cette conférence ne pouvait pas avoir comme recommandation le rappel encore du travail que devait faire la communauté internationale, dès lors que la résolution 2348 donne déjà ou soutient à 100% déjà l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016.
Oui, c'est comme si c'était une redondance. Parce que c'est comme si les évêques peut-être n'étaient pas informés. La communauté internationale, les partenaires ont fait ce qu'ils devraient faire. Mais maintenant, c'est le gouvernement. Le pouvoir en place ne fait pas céder. Je ne sais pas pourquoi. Pour cela, ce n'est pas encore le problème du comité international, des partenaires ou quoi que ce soit. Nous ne voulons pas encore attendre ça. Nous invitons la population de se prendre en charge, comme l'a dit le premier intervenant. Hier, c'était l'État. L'autre problème, c'est le problème de la violation de la Constitution et le problème du respect des droits de l'homme. Moi, je pense que l'article 26 prévoit et garantit la liberté de manifestation. C'est l'article 22 de la Constitution au but organisateur des manifestations publiques d'organiser, d'informer l'autorité publique 48 heures avant toute manifestation. Le 30 décembre, c'est presque dans beaucoup de provinces, c'est la lutte à l'État qui a organisé leurs manifestations pacifiques. C'est le gouvernement, c'est le pays, c'est l'État qui est venu empêcher. Il n'y a pas eu manifestation au moment où on vous parle.
Alors, une question de relance.
Nous déplorons vraiment ces comportements. Le gouvernement doit nous laisser l'État pour qu'ils soient animés d'une mauvaise foi. Nous, la population doit se prendre en charge. Nous ne voulons pas être empêchés par qui que ce soit pour que ce pays nous appartient. La Constitution doit être respectée. L'accord, nous, on n'avait pas signé, mais ce sont ceux qui avaient signé. Ils doivent respecter ça.
Alors, si je comprends bien pour vous, Ifaso, ce plaidoyer est inopportun. Et vous craignez, vous redoutez que cela ne puisse pas donner des résultats ou répondre aux attentes des aspirations légitimes des Congolais?
Oui, parce que je me suis déjà expliqué que ça peut ou ne peut pas donner les résultats, mais je pense que c'est ce que les partenaires ont déjà fait. Bon, je ne sais pas si la façon d'harmoniser, ils vont harmoniser encore comment. Il ne faut pas forcer Kabila, c'est ce qu'ils font. Ils ont mis une coordination en place.
Oui, mais parce que
le pays ne le fait pas.
Voilà,
le problème maintenant, c'est le Congolais. Moi, je veux que la CENCO, ensemble avec toute la population congolaise, se prenne en charge.
Merci beaucoup.
Notre hymne national, dans une partie, dit « Debout Congolais, dressons nos fronts, l'ont courbé ». C'est ce que j'invite de toute la population de dresser leurs fronts, puisque les fronts ont été longtemps courbés, de chasser le pouvoir en place, conformément à l'article 64 de la Constitution.
Merci beaucoup, Ifaso. Voilà.
Le devoir de tenir en échec toute personne qui utilise, qui exerce le pouvoir en violation de la Constitution.
Merci beaucoup, Ifaso. Pour vous, vous estimez que aujourd'hui, la résolution 2348 qui soutenait ou qui continue à soutenir à 100% l'accord politique global et inclusif dit accord de la Saint-Sylvestre déjà parle de tout et donne toutes ces garanties, ce qui veut dire que ces plaidoyers faits par les évêques disons n'entrent plus dans les cadres normaux et c'est plutôt la population qui devait penser déjà à se prendre en charge. Merci beaucoup Ifaso. Alors on va prendre Franck à Vienne. Franck, bonjour.
Bonjour mon ami Ger, bonjour à tous les amis de PA, bonjour à ceux qui vont intervenir.
Alors Franck, vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui nous avons vu des navettes diplomatiques en Afrique, là où il y avait des crises, en tout cas dans d'autres pays. Si nous citons les cas juste de d'autres pays proches de nous ici en Afrique, où on a eu une forte implication de l'Union africaine, de la Commission africaine, ben chez nous, c'est comme si la communauté internationale, à chaque fois qu'on revienne sur cette question, on a l'impression que l'option pour résoudre définitivement la crise en RDC n'a jamais été levée. Est-ce que vous avez les mêmes regards?
Oui, merci beaucoup pour la participation, pour l'accès au débat. Je crois qu'il y a d'abord lieu de recadrer un peu la manière de comprendre cette position qui venait d'être émise par nos pères évêques à partir de la Belgique. Nous devons d'abord nous mettre d'accord du fait que la position de nos pères évêques réunis au sein de la CENCO est tout à fait fondée, justifiable et rationnelle. Pourquoi? Je peux m'expliquer en trois petits points. D'abord, nos pères évêques sont des citoyens congolais à part entière. De ce fait, la bonne marche des activités étatiques de chez nous est également leur préoccupation en dépit de la fausse conception de ceux qui pensent l'exclure abusivement du débat démocratique interne. Ensuite, l'Église catholique, je ne vais pas parler de toute l'Église, je me réfère ici à l'Église catholique. L'Église catholique a une série de missions à accomplir pour le bien des hommes. Et parmi toutes ces missions, il y a aussi une dimension sociale et prophétique qui ne puisse plus laisser nos pères évêques insensibles face à cette misère dont des millions de Congolais catholiques et non catholiques sont victimes et c'est nécessaire de dénoncer. Puis enfin, en dehors de son rôle médiateur pour ces accords de la Saint-Sylvestre, les citoyens congolais, nous sommes en mesure de nous rappeler que l'Église catholique a toujours été présente et active pour accompagner le peuple congolais vers l'établissement d'un véritable état de droit. Ça, c'est d'abord une manière de recadrer le débat. Maintenant, si je dois réagir par rapport à votre question posée, la position de l'évêque a été mise dans un contexte déterminé. Ils ont été invités par une structure pour présenter aussi un peu leur vision par rapport à l'état actuel de la marche de la chose politique chez nous. C'est seulement à base des messages qu'ils voulaient diffuser à tout le monde, ils sont arrivés à faire voir aussi à ses partenaires externes la part des responsabilités qui leur revient. Mais personnellement, quand j'ai suivi la conférence ou quand j'ai suivi le point de presse animé par mon aîné, l'abbé Donatien Chollet, je ne pense pas que l'abbé Donat a interdit aux Congolais à Kinshasa ou bien au pays de faire pression à leur manière. Non, la pression doit être faite de part et d'autre. Mais je crois que ce qu'on doit exclure ici, l'Église catholique ne veut pas aller en ordre dispersé. L'Église catholique ne veut pas faire recours à la violence. L'Église catholique veut se servir de certains articles, notamment l'article 64, pour arriver à responsabiliser le peuple. Mais malheureusement, je crois chez nous, les gens ont toujours pensé que quand l'Église parle, l'Église ne peut pas avoir accès au débat. Non. L'Église catholique est présente chez nous.
Franck, concrètement, oui. Parce que si nous scrutons les 6 points formulés dans ces dossiers de plaidoyer après cette conférence de presse à Bruxelles, nous prenons juste le premier point qu'on a débattu d'ailleurs avec vos prédécesseurs tout à l'heure, lorsque la CENCO demande aux partenaires d'harmoniser leur prise de position vis-à-vis du gouvernement congolais. Ça rime à quoi? Est-ce qu'on peut dire que dans les secrets de Dieu, ils savent qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité n'a pas encore levé une option claire sur le dossier RDC?
Oui, monsieur le journaliste, je crois que vous savez mieux comment l'Église catholique fonctionne. Parmi nos pères évêques, parmi leurs conseillers, il y a des grands politologues, il y a des gens qui ont fait des sciences politiques et qui savent, nous le savons tous, que les rapports entre État et État est d'abord misé sur les intérêts. Donc, le regard de notre politique, le regard de notre situation interne en externe n'a pas toujours la même perception. Il y en a qui prouvent que le gouvernement en place peut encore rester là pour servir leurs intérêts. Il y en a qui prouvent que le gouvernement doit partir pour que les autres viennent aussi se mettre dans leur place. Alors, je crois que c'est d'abord à ce niveau-là que les évêques voulaient cibler ces partenaires au niveau externe. Puis, si nous devons bien voir les recommandations émises par le Conseil des Nations Unies à New York et les recommandations de l'Union africaine, quelque part, il y a un peu des écarts, quoi. Et puis, nous ne devons pas ignorer le fait que on ne doit pas trop croire que la grande pression proviendrait, par exemple, de l'Union africaine. Mais nous devons nous poser la question, qui est membre de cette Union africaine? L'Union africaine est dirigée par des chefs d'État dont certains ne veulent même pas non plus quitter le pouvoir. Et quelqu'un qui ne veut pas quitter le pouvoir paisiblement chez lui, est-ce que seulement il serait un bon exemple pour l'appliquer dans les cas congolais? Je crois que c'est à ce niveau-là que les citoyens congolais que nous sommes, que nous devons comprendre un peu comment nous situer par rapport à la démarche des évêques. Parce que la déclaration récente de l'Union africaine, si on peut bien la comprendre, il y a un peu trop de complaisance. Et jusque-là, l'Union africaine n'a jamais condamné fermement la note émise des organisations.
Oui, parce que, de manière
diplomatique.
Voilà.
Mais si c'est A, il faut le dire A. Si c'est B, il faut le dire B. Oui.
Voilà. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé. Alors, on va prendre Sylvain qui est à Bounia. Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Oui, parce que parlons, restons sur cette question évoquée par Franck tout à l'heure, la complaisance lors des assises sur le, disons au niveau de l'organe de droit de l'homme de haut niveau. La Tunisie a demandé à ce que effectivement qu'on puisse demander à la RDC de pouvoir au niveau de la CENI de publier le calendrier. Il y a d'autres participants à ces assises ont estimé que la communauté internationale est un peu complaisante par rapport à la question de la RDC.
Il faut d'abord reconnaître que c'est honteux pour la République démocratique du Congo d'oublier son histoire récente, celle de la guerre, celle de la libération faite par le président Laurent Désiré Kabila face à un régime de dictature de Mobutu. Je pense, à mon avis, que nous sommes en train de retourner petit à petit à l'histoire. C'est malhonnête. Alors, réagissant par rapport au propos de mon frère Franck que j'ai sali de Vienne, il faut effectivement noter une complaisance, et cette complaisance est partagée. Cette complaisance est d'abord interne. Le peuple congolais lui-même ne se rend pas compte que le destin de son devenir. Et les acteurs politiques, j'aime ce qu'a dit le premier auditeur, les acteurs politiques congolais n'ont pas la volonté politique d'aider le pays à avancer. Ça, c'est très dangereux. Et c'est ainsi que je suis d'accord avec le deuxième auditeur, qui a pensé que le peuple congolais devrait se réveiller désormais pour se charger de la responsabilité de leur pays. Et je voudrais ici dire, par rapport à la question soulevée du jour, c'est qu'il ne faut pas qu'on prenne les évêques, qu'on les écarte de l'affaire de la RDC, puisqu'ils sont congolais, comme Franck l'a dit. Et même en dehors des cas de l'Église, j'ai toujours dit que ces gens ont le droit, puisqu'ils ont d'abord le droit d'appartenance à la RDC. Et pourquoi ils ne vont pas émettre un peu de vie? Je dis, hier, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, l'accord du 31 décembre 2016. Je suis sur le chapitre 2, respect de la Constitution, point 5. Les partis s'engagent à exécuter de bonne foi les présents compromis et les recommandations qui seront formulées par le Conseil national des suivis de l'accord. Mais écoutez, aujourd'hui, plus de 10 mois, quelle n'est pas l'inquiétude de tous les Congolais, et spécialement puisque la CENCO a eu la charge de présider à ces accords-là, donc ils avaient tout à fait raison de pouvoir s'interroger sur les sorts réservés à l'accord par les politiques congolais. Deuxième chose, je voudrais revenir sur le premier point que vous venez de soulever tout de suite. Pourquoi la CENCO, et ça c'est même mon point de vue, moi Sylvain, il faut que les partenaires à la RDC puissent revoir leur position vis-à-vis de notre pays. Puisque quand même c'est trop. Souvenez-vous qu'en 1997, nous avons perdu de vies humaines. Pourquoi, puisqu'au départ du président Kabila, nous voulons encore réciter dans les mêmes faits? Moi, je dis, il faut quand même être malhonnête et il faut perdre le point de vue qu'on est des hommes pour qu'on oublie vite l'histoire. Donc, le régime actuel qui est assis sur le sang des Congolais à la libération de 97 ne doit pas contraindre un nouveau régime au même fait. Donc, il est tout à fait normal, monsieur Gère, qu'aujourd'hui, les Congolais disent au président Kabila, vous avez servi le pays, c'est le moment, comme le Conseil de l'Élysée, de revenir au Sénat. Puisque des mecs qui seraient encore utiles pour le pays. Et donc, il était tout à fait normal pour moi que la CENCO, et même, je dis aujourd'hui, la société civile.
Alors, vous estimez, oui, Sylvain, parce que on va quand même réfléchir à ces plaidoyers. Vous accordez quelle chance, quel crédit à ces plaidoyers des évêques, et quelle est la piste que vous leur proposez pour que ça ait quand même un succès, ces plaidoyers?
Je donne d'abord toute la chance à ces plaidoyers, puisque moi je suis convaincu qu'aujourd'hui, la forme des cités, ou soit la forme des États, ont changé à travers les acteurs. Les acteurs sont devenus multidimensionnels. Et ce ne sont pas seulement les institutions politiques qui jouissent du pouvoir d'acteurs dans la scène politique d'un pays. Et donc je sais que la CENCO, et même l'Église catholique et les autres, la société civile dans sa couche confondue, aujourd'hui sont à même de pouvoir impacter sur la politique du Congo. Et donc je crois que nous pouvons réserver tout crédit à ces démarches-là. Deuxième chose, quelle garantie, ou soit quel préalable? La première des préalables, monsieur le journaliste, pour moi c'est d'abord le peuple congolais. Le peuple congolais devra comprendre qu'il est l'acteur principal du changement dans son pays. Et deuxième chose, il faut que tout le monde sorte maintenant du silence. pour demander à ceux qui ont géré le pays pendant longtemps, avec toutes les déviations possibles, de pouvoir se résigner de leurs actes qui vont traîner la RDC vers la dérive. Et ça, c'est important. Et de l'autre côté, je crois qu'on doit aussi faire le mea culpa. Le mea culpa en tant qu'acteur politique. Après avoir échoué de respecter la condition, que les autres peuvent aussi faire mieux.
Merci beaucoup Sylvain, vous accordez du crédit à ces plaidoyers, en tout cas à toute son entièreté et au nombre de préalables. Vous estimez que c'est le moment que le peuple congolais puisse être très consciencieux de son destin et tout le monde doit sortir de son silence pour en fait demander à ce que ceux-là qui ont la charge de l'État ne puissent demander quand même pardon parce que là il y a un problème de manque de conscience pour le développement de la RDC. Merci beaucoup Sylvain d'avoir appelé de Bounia 09 97 06 49 69 et encore le 09 97 06 63 30 pour votre intervention en direct.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ses citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Je l'ai dit tantôt dans un dossier de plaidoyer formulé à l'issue de la conférence de presse organisée par les évêques congolais à Bruxelles. La SENCO demande notamment aux partenaires de la RDC d'harmoniser leur prise de position vis-à-vis du gouvernement congolais en exigeant l'organisation des élections conformément à l'accord du 31 décembre et d'accompagner le peuple congolais dans ses aspirations légitime d'un Congo véritablement démocratique. Quelle lecture faites-vous de ces plaidoyers? Claude, vous êtes à Likasi. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur JR. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas là. En fait, j'ai une intervention. Tout d'abord, je salue le plaidoyer de la CENCO fait au niveau de Bruxelles. Je tiens à rappeler que la CENCO avait joué un mauvais rôle à l'interne lorsqu'il s'agissait, n'est-ce pas, de faire tout pour faire respecter la Constitution. La CENCO a joué au sapeur-pompier et a baissé la tension en donnant des béquilles presque aux acteurs que nous avons actuellement. C'était pratiquement à la même période au mois d'octobre, pour rappeler, le 18, c'était le premier dialogue et en décembre, date fatidique, c'était la CENCO. Tout compte fait, nous en sommes là, beaucoup de Congolais ont été sauvés. Mais j'ai une proposition à leur ajouter. Mmh. Et voici ma proposition. Je voudrais seulement que nous puissions, nous tous, faire la sensibilisation à l'interne au lieu d'aller à l'extérieur. Nous devons soutenir, nous tous, l'enrôlement qui s'est fait au niveau du Kasaï. Nous devons seulement 90 jours. Et nous demandons à nos députés nationaux, parce que nous, c'est nous qui leur avons donné le mandat. On fait le plaidoyer à ce niveau-là pour que la loi électorale soit à ce stade déjà votée. Pas la loi sur le censat. Le censat, c'est déjà passé. On n'en a plus encore besoin. Et en ce moment-là, nous pouvons demander à la CENI, dès que la loi électorale est là, qu'on puisse aller vite, qu'on lance déjà le dépôt des candidatures. Même s'il n'y a pas un calendrier, on s'est dit, c'est loi que non, chaque parti lance, dépose les candidatures. En ce moment-là, nous allons voir quelle est la partie, parce que maintenant on s'est dit telle partie aime les élections, telle partie ne veut pas aller aux élections. On lance déjà en avance des candidatures à la présidence. Parce que vous savez, il faut des bulletins, il faut envoyer, il faut des contentieux, il faut publier des listes définitives. En avance déjà, on peut demander au candidat président de la République de déposer leur candidature, ça ne demandera rien. En ce moment-là, on verra quelle est la partie, n'est-ce pas, qui n'est pas prête pour aller aux élections.
Est-ce que vous estimez, Claude, est-ce que vous estimez comme les autres qu'au 31 décembre, l'accord de la Saint-Sylvestre sera caduque? parce que aujourd'hui, bon nombre estiment que déjà, bon, cet accord est dans un coma. Le fait que le 30 septembre, il n'y a pas eu convocation des corps électoraux. Disons, l'enrôlement se poursuit encore. On n'a pas encore entamé l'enrôlement des Congolais et de l'étranger qui ont aussi le droit de participer à ces élections. Alors, vous estimez comme les autres que vraiment cet accord est dans un coma et qu'au 31 décembre, il sera déclaré caduc et obsolète.
Je crois que moi, je voulais être réaliste. C'est-à-dire, si nous donnons 90 jours pour l'enrôlement au Kassai, on va aller pratiquement au mois de décembre. Il faut parler de urnes, de dépôt de candidatures, tout ça. On va aller au-delà. Mais en lieu et place, pour rassurer toutes les parties, que le président, bien sûr, comme c'est celui, c'est on dit qu'il y a, on lance la candidature. Comme ça, le candidat président de la République dépose déjà leur candidature. En ce moment-là, j'ai demandé aux gens du rassemblement, lorsque la majorité déposera aussi la candidature, de leur, n'est-ce pas, du dauphin du président, à ce moment-là, on peut dépasser le mois de décembre, même de 2 mois, 3 mois, pourvu qu'on assiste dans notre pays à une passation pacifique. Je crois que c'est une solution, il n'y a pas l'autre. L'autre, ça sera les désordres, ça sera cassé et on ne va pas vraiment réussir.
Alors, quel commentaire faites-vous?
On demande seulement aux candidats de déposer leur candidature. Vous allez voir réellement s'il y a la volonté et il y ait alternance ou pas.
Alors, est-ce que vous avez un commentaire sur le quatrième point de ces plaidoyers, et lorsque la CENCO demande aux partenaires de soutenir les organisations de la société civile congolaise qui militent pour une alternance démocratique, pour le respect des droits humains et pour l'éducation civique de la population?
Non, par contre, je demanderai à la CENCO de venir faire ces plaidoyers ici à l'interne, dans leurs églises là, qu'ils parlent seulement aux fidèles dans leurs églises. Ça ne sert à rien d'aller faire
demander aux partenaires,
parce que la société civile, elle est à l'église. Parlez-nous, nous les croyants, nous sommes à l'église, non? Parlez-nous de ce que nous devons faire. Parlez aux gens qui sont à la CENCO là, de publier les calendriers. C'est ça, ces gens-là qui ne veulent pas. Nous le voyons avec les yeux, c'est la CENCO. Chaque fois, même la majorité, même l'opposition écrit, il dit que c'est à la CENI la responsabilité d'organiser et de publier. Quand la CENI refuse de publier, vous ne voyez pas que c'est eux qui nous énervent. C'est la CENI qui prend le peuple congolais en otage. On fait un plaidoyer à l'interne. Ça ne sert à rien d'aller à l'extérieur. Les autres viendront tellement profiter de nous. Viendront nous dicter, nous imposer d'autres dirigeants. Ça n'ira pas. Ils viennent tellement à l'interne. Nous allons trouver la solution cette fois-ci. À l'interne, qui nous facilite seulement.
Merci beaucoup, Claude, d'avoir appelé Delicacy. On va prendre Alenga ici à Kinshasa. Alenga, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Dieu.
Oui, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole, d'où je commence à remercier vraiment l'unique radio du peuple en RDC et à vous, nos présentateurs spécialistes, JR et monsieur Pierrot, là où il est. Je vais droit au but. Dans mon intervention, donc, en vertu de cette théorie qui dit que la seconde loi vient au remplacement de la première, d'où les accords du Saint-Sylvestre étaient au remplacement des accords de l'UA. Et d'aucuns ignorent comment nos pères sont malmenés, nos pères spirituels bien entendu, sont malmenés, incités par le gouvernement pour avoir voulu sauver la nation le 31 décembre 2016 par ces accords-là du Saint-Sylvestre. Pour clore mon intervention, l'histoire ecclésiastique m'enseigne que l'Église a toujours vaincu dans les confrontations, dans toutes les confrontations de confrontation avec les dictateurs à travers le monde. Donc, ceux qui sont ici en RDC, ils ne seraient pas aussi épargnés. Donc, courage à nos chers évêques, nous sommes à 100% derrière eux. Nous, les chrétiens en RDC, nous sommes majoritairement, surtout nous les jeunes. Car nous tous, chrétiens de toutes les tendances confondues, sont derrière nos évêques sur Facebook, Internet et partout par là.
Merci
et
beaucoup.
Nous continuons à sensibiliser nos camarades jeunes pour que nous puissions tous être vigilants et debout. Et je ne peux pas passer mon intervention sans prêter mes condoléances à la Fondation Olangi.
Merci beaucoup Alenga. Merci beaucoup Alenga. Merci beaucoup d'avoir appelé Arsène. Vous nous avez également rejoint. Bonjour et bienvenue. Voilà Arsène, vous êtes avec nous? Arsène. Voilà, on prend Elie Lokwa en Mbandaka. Elie, bonjour. Élie Lecoeur, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, Élie, vous êtes en ligne, vous avez suivi vos prédécesseurs. Quel est votre commentaire?
D'accord, je remercie tous les auditeurs de la radio Capi qui nous suivent pour le moment. Je suis tout à fait d'accord avec les plaidoyers de la Cinco. Donc, les évêques ne cessent pas à se battre pour trouver solution dans les problèmes de la crise politique dans notre pays. Donc, c'est un plaidoyer purement important. Mais pour le moment, en tant que citoyen congolais, je vais vous le dire, il y a de cela quelques jours, et la population congolaise a pris elle-même l'audace face au tribunal de sa propre conscience. Et devant la lecture fictive de l'histoire, de cette cité elle-même est très engagée, comme celle qui va prendre solution à des problèmes qui ont pacifié le bon fonctionnement des valeurs démocratiques. Mais toutefois, l'accord de la Saint-Sylvestre, en son chapitre 4.2, parle qu'au moment où il y a des difficultés pour l'organisation des séquences électorales présidentielles, législatives, nationales, tant provinciales, la CENI, le gouvernement, les 500 doivent voir unanimement comment peut-on, ils peuvent discuter pour choisir n'importe quelle séquence pour qu'il y ait les élections dans notre pays. C'est ça l'interprétation de ce chapitre. Et d'ailleurs, il faut comprendre que la circonscription électorale du président de la République, elle est nationale. Et cela ne demande pas qu'il y ait une loi pour la répartition des sièges.
Oui, Élie, je crois qu'on va évoluer dans les débats. Aujourd'hui, les débats tournent autour de ces plaidoyers formulés par les pères évêques depuis Bruxelles, avec 6 points de recommandation. Le premier point, c'est ce que la Conférence nationale épiscopale nationale du Congo demande aux partenaires de la République démocratique du Congo d'harmoniser leur prise de position vis-à-vis du gouvernement. Quelle est votre lecture par rapport à ces premiers points?
Et d'ailleurs, cette lecture, je le ferai parce que je ne les partage pas tout à fait dans son entière totalité. Nous devons faire la part des choses. Actuellement, ce n'est pas d'ailleurs le problème de contacter les partenaires internationaux. La CENCO a fait son travail, elle devait tout simplement limiter ici au niveau national. Parce que dans notre pays, il s'agit d'un problème où le gouvernement lui-même ne veut pas prendre la responsabilité pour l'organisation des élections. C'est ça même, le jour passé, le 30 septembre, vous avez vu dans presque toutes les années de la République, les mouvements citoyens se sont révoltés pour dire à la CENI ou tout le monde entier de savoir qu'avec ou sans élection, vraiment, M. Kabila doit quitter le pouvoir. Avec ou sans transition ou sans soutien de la communauté internationale, M. Kabila doit quitter le pouvoir. C'est ça le concept que la CENCO doit elle-même réfléchir avec la population congolaise pour sortir la RDC de la déliquescence politique. Actuellement, nous avons bien dit hier. Nous avons très bien dit, vous avez suivi les interventions des uns tout comme des autres. La meilleure façon de voir les choses, c'est de voir notre président de la République de quitter le pouvoir de manière pacifique et de respecter l'accord. Et ce qui est grave, c'est de voir l'accord depuis sa première page jusqu'à la fin. Il n'a pas respecté l'accord. Il a violé totalement, moi, au début de la nomination du Premier ministre, il a violé l'accord. Pour nommer le président du Sénat, il a violé l'accord, mais aujourd'hui, pour la convocation même des scrutins électoraux, il continue toujours à violer l'accord.
Donc, si je comprends bien, Élie, pour vous, vous souhaiterez que ça soit un plaidoyer, en tout cas, en ce qui concerne le premier point, ça doit concerner, en fait, un plaidoyer à l'interne et non à l'externe, pour que, finalement, comme on avait déjà commencé à échanger entre politiques, qu'on puisse trouver la solution quant à ce. Merci beaucoup, Élie. Jules, vous êtes Al-Mbashi, bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Alors,
monsieur JR, c'est très bon. Je félicite aussi.
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Jules. On va prendre plutôt Jean-Pierre qui est à Kikwit. Bonjour, Jean-Pierre.
Bonjour, monsieur Gel. Bonjour à tous les amis des auditeurs de la radio Capi. D'abord, ma préoccupation, c'est ceci. Monsieur Gel, qui avait demandé aux évêques d'organiser cette conférence de Senko? D'abord, c'est ça ma préoccupation. Qui avait demandé que les évêques se réunissent pour organiser ces conférences de Senko? De deux, ces évêques sont qui? Ne-t-ils sont pas des Congolais pour qu'ils puissent arranger tous ces problèmes du Congo? et de Troyes. Donc, vous voulez que les évêques soient expatriés de ce pays. S'ils ont parlé, c'est à l'étranger. Où est le mal? Parce que moi, je demande que tous ces gens qui entourent le président Kabila en soi sont les mauvais. Le président Kabila lui-même n'est pas mauvais. Le président Kabila est pour les élections. Mais sauf son entourage. Tous ces ministres-là sont des margoulins, sont des menteurs. Ils sont en train de rouler le président de la République. Nous, nous voulons que nous allions aux élections. Le président de la République est d'accord pour les élections, mais sauf tous ceux qui les entourent sont de mauvaise foi, bourrés de mauvaise foi, parce qu'ils sont déjà des mobutistes, ils ont toujours cette tendance d'être incarnés au pouvoir. Nous, nous voulons que nous allions aux élections suivant l'accord du 31 décembre, fait par la CENICO. Voyez ma préoccupation, s'il vous plaît.
Merci, merci beaucoup, Jean-Pierre. Nous allons vous rappeler les contextes dans lesquels, au fait, le plaidoyer a été d'ailleurs formulé au niveau de Bruxelles. Quand nous lisons ces dossiers de plaidoyer, on se rend compte que dans le contexte général, il a été dit que la crise politique que traverse la RDC, la RDC est née suite à la non-organisation des élections en décembre 2016. Et par la suite, elle s'est aggravée à cause de la généralisation de l'insécurité à travers le pays et de la dégradation accélérée de la situation socio-économique. Au regard de tout cela, les évêques, invités par la conférence, la commission justice et paix de la Belgique, en collaboration avec la commission justice et paix de la RDC, ont tenu une conférence de presse pour porter l'éclairage quant à tenants et les aboutissants de l'organisation des assises de la Saint-Sylvestre, notamment au niveau des centres interdiocésains. Et quelques questions urgentes pour un retour à l'ordre constitutionnel ont été également évoquées quant à ceux. Et voilà pourquoi ils ont formulé les 6 points de recommandation. 1, d'harmoniser, demander aux partenaires d'harmoniser leur prise des positions vis-à-vis du gouvernement. 2, d'intensifier des pressions sur toutes les personnalités congolaises. 3, de porter une attention particulière aux conséquences sociales et humanitaires de la crise qui affecte la RD Congo. Et s'agissant du 4e point, les évêques ont insisté sur les points que devait prendre en compte aussi l'activité de la communauté internationale, de soutenir les organisations de la société civile congolaise qui militent pour une alternance démocratique, et 5, d'accorder sous certaines conditions un appui technique et financier à la commission électorale nationale indépendante, et enfin d'accompagner le peuple congolais dans ses aspirations légitimes d'un Congo démocratique. Jules, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Vier, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Donc, je disais que donc c'est bien de se plaidoyer là, parce que c'est nous qui en pâtissons, nous, la population. Aujourd'hui, il y a une misère qui est terrible dans ce pays. Donc, je vous dis, parce qu'on n'allait même pas arriver à ce stade, monsieur Vier. Parce qu'en 2006, on a organisé les élections. Il n'y a pas eu de problème. En 2011, la même chose. Mais pourquoi aujourd'hui, ça fait très mal? Pourquoi aujourd'hui, il y a des dialogues à répétition? Il y a des problèmes? Vous voyez, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ça, tout ça. Ça fait très mal, en tout cas. Pourquoi on n'arrive seulement pas à organiser les élections comme on les voit dans d'autres pays? Nos voisins ici les font. Alors, nous avons des responsables dans ces pays. Il faut parler aux élections tout droit. Nous, les peuples, nous allons choisir nos dirigeants actuels. Donc, c'est ça.
Merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup, Gilles. On va prendre Adrien qui est à Kananga. Adrien, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, Gilles. Bonjour à tous les amis auditeurs.
Quelle est votre contribution?
Oui, il faut dire que je me suis dit. Le plaidoyer de la CENCO devrait normalement, s'il n'y avait pas des arrière-pensées, être soutenu par toute la classe politique. Sauf s'il y a des agendas cachés dans les têtes des uns et des autres, c'est comme ça qu'on va décourager la CENCO. Donc la CENCO est en train de faire sa part. Et au jour d'aujourd'hui, moi je me dis, ça doit quand même interpeller les uns et les autres. Parce qu'il y a ceux-là qui estiment qu'ils sont en train de mettre en application cet accord. Et pourtant... Lorsque vous suivez et la CENCO et la communauté internationale, il y a une unanimité qui est en train de s'afficher. Tout le monde se rend compte que cet accord-là n'est pas appliqué. Donc, ce qui me fait dire, leur position rejoigne maintenant la position de l'opposition qui estime que cet accord n'a jamais été appliqué. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que, hormis ce que la CENCO est en train de faire, la responsabilité est entre nos mains, nous peuple congolais, parce que la CENCO est en train de faire des lobbying, mais la souveraineté est entre nos mains. Lorsque nous allons nous dire il faut maintenant récupérer notre souveraineté, et c'est nous-mêmes, la communauté internationale peut-être viendra pour nous accompagner. Et troisièmement, je pense qu'ici c'est un cri de cœur que je suis en train de lancer aux politiciens. Je ne m'aimerais pas créer de la confusion comme les compatriotes mélangent un peu des choses pour dire que et l'opposition et la majorité. Non, ici, la part des responsabilités est dans le camp de la majorité. C'est comme ça que moi, je leur appelle pour qu'ils se rendent compte que le pays nous appartient tous. Ça ne sert à rien de créer des histoires pour quitter le pays maintenant après avoir dérangé tout. Il est temps de se dire soit organiser les élections pour mettre fin à cette crise, parce qu'il y a deux accords. Eux-mêmes disent qu'il y a l'accord de la Saint-Sylvestre, il y a aussi l'accord de la Cité de l'Union européenne. Mais pourquoi pas ne pas appliquer même les recommandations de l'un des deux accords? Parce que l'accord de la Saint-Sylvestre fixe le timing au 31 décembre. Le premier accord fixe le timing au mois d'avril 2018. Donc moi je pense aussi on mettait en application l'un des deux accords. Ça sera quand même une solution au lieu de laisser la population
d'Afrique. Oui. Ah, mais Adrien, quand nous avons reçu dans ce studio Monsieur Kinke Mulumba, pour ne pas les citer, un des ténors de la majorité présidentielle avait dit que qu'il s'agisse de l'accord de la Cité de l'Union africaine ou encore de l'accord de la Saint-Sylvestre, il s'agissait des dates ou des séquences électorales qui ont été fixées pour une consommation publique. Donc la réalité, après avoir écouté le président de la CENI, il n'était pas question que les élections soient organisées dans cette période-là. Ça pouvait aller peut-être au-delà de novembre 2018.
Non, JR, je pense que s'il dit ça, je ne sais pas. Il se base sur quel document, parce que moi, j'ai le privilège d'avoir eu tous les deux documents. Donc vous allez vous rendre compte que les deux documents parlent. Mais eux, ce qu'eux font, ils se mettent dans des exceptions. Pourquoi toujours la majorité se met dans des exceptions? Parce que lorsque vous prenez l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est vrai qu'il y a une possibilité qu'on accorde au gouvernement, à la CENI et aussi au CENSA de se retrouver pour faire une évaluation. C'est sur ce point-là que nos amis s'accrochent. Mais pourquoi ils ne peuvent pas mettre en application le principe? Parce que l'exception ne profite pas à la population. Dire que non, on pouvait aller jusqu'au-delà au-delà de novembre 2018, ça c'est faux, ça ne figure nulle part. Or, dans cette exception-là, on dit tout simplement qu'il y a possibilité, après l'évaluation, qu'on puisse découpler les élections.
Mais Adrien, vous êtes d'accord avec nous que Corneille Nanga, président de la CENI, demandait plus de 510 jours pour les activités électorales.
Exactement, je suis d'accord, Gér.
Donc c'est au-delà de 2017.
Non, Gér, j'ai dit que si nous
parce que si nous prenons 2017, calcul, c'est oui.
Donc oui, l'accord de la cité de l'IA est intervenu au mois d'octobre 2016.
Oui.
Donc lorsque nous prenons 2016 jusqu'à octobre 2017, ça fait déjà 365 jours.
Oui.
Lorsque nous prenons maintenant le mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, et vous allez vous rendre compte que nous allons atteindre les 500 jours par lui demander.
Malheureusement, les opérations n'ont débuté que mois de janvier.
Voilà,
maintenant. Au mois de janvier, donc s'il faut faire les calculs, c'est en fonction de janvier 2017.
Non, lorsque nous prenons maintenant l'accord devrait commencer à produire ses effets le jour de sa signature. C'est pour ça qu'il y avait eu même de la cacophonie. Les uns qui disaient que l'accord commençait déjà à produire ses effets le jour où les membres avaient apposé
leur signature.
Les autres ont dit que non, c'est le chef de l'État le jour où on lui avait donné cet accord-là.
Merci beaucoup, Adrien. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Monsieur Chier. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi.
Voilà, rapidement, moi, parce qu'il y a Gaston qui attend aussi.
Le plaidoyer de la CENCO est fondé. Est délicat. Pourquoi je dis cela? Puisque nous nous retrouvons maintenant dans un goulag accolade là, au niveau de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire nous avons en face de nous, le peuple en face de lui, une majorité présidentielle qui manifeste une volonté boulimique de s'obstiner au pouvoir. Alors c'est une interpellation que la CENCO vient de faire au niveau de la communauté internationale, puisque nous avons constaté beaucoup de divergences dans les prises de position de ce comité international, même dans les organisations sous-régionales. C'est ainsi que la CENCO s'est vue responsable d'interpeller toutes les organisations pour qu'elles puissent harmoniser leurs vues. Parce qu'aujourd'hui, la CENCO a déjà fait son travail à l'interne, en ce qui concerne l'accord de la Saint-Sylvestre, mais maintenant, notre chef de l'État, M. Kabila, sortit au pouvoir en recourant à la communauté internationale. Alors, cette communauté internationale, comme les organisations régionales telles que la SADC, CIRGN, CASC, c'est-à-dire que c'est une organisation internationale, pas des positions qui ne profitent pas la population.
Merci beaucoup, Maître Sonville. Merci beaucoup, Maître Sonville. Merci beaucoup, Maître Sonville. On va prendre l'ingénieur Gaston, qui est à Kinshasa. Lui aussi, on va accorder une minute avant de clore cette émission. Ingénieur Gaston, bonjour.
Bonjour, Pierrot. Je suis toujours le dernier à intervenir, ouais. Malheureusement. Moi, je pense que les pays qui nous entourent ici, il y a certains qui ont recouru au changement des constitutions, il y a ceux qui ont voté des lois, comme chez Kagame, et les présidents se sont maintenus. Mais comment nous pouvons être maintenus avec un chef de l'État seulement sur base d'un simple accord? Je ne suis pas d'accord sur la forme de ces mémos ou de ces parcours de la CENCO de l'autre côté. La solution est ici, au pays. Quand la CENCO doit dire qu'il faut le respect de l'accord du 31, ça veut dire quoi? C'est une injure au peuple. Donc nous devons commencer à appliquer ça maintenant, et encore une année, nous n'avons pas besoin de ça. Ces déclarations doivent être faites ici au pays, dans l'église où le peuple est atteint. La solution viendra de la population et non des acteurs politiques. Nous avons suivi ceux qui sont dehors, les Tchèques Tshisekedi, les Félix Tshisekedi, qui veulent aussi qu'il y ait une croissance. Ce sont des déclarations creuses, qui n'ont pas de fonds. Qu'ils viennent ici au pays, que Moïse Katumbi rentre ici au pays, qu'on l'arrête. Une fois qu'il est arrêté, il ne sait pas que ça va constituer aussi une pression de plus pour le pays. La population, c'est comme une allumette. L'allumette, on peut l'allumer pour nourrir, pour faire préparer la nourriture, pour aussi brûler une maison. Mais il faudra qu'il y ait un acteur pour allumer cette allumette-là, afin que les ailes soient bien faites. Moïse a aidé cette population-là dans des bonnes choses. Nous avons aidé Moïse à conduire les rebelles quand ils venaient chasser Mobutu au pouvoir. Mais cette même population a chassé Mobutu. Et donc, il faut des acteurs. Je ne voudrais pas que les gens cherchent à réfléchir sur les points de vue, les propos. Quand la CENCO demande à la communauté nationale d'éclaircir leurs points de vue par rapport au Congo. Mais ça, ce sont des textes. C'est comme ça que moi, je vais demander une suggestion à la Radio Capi, que cette émission, désormais, soit aussi bilingue, qu'on parle français et lingala. Comme ça, le peuple, parce que c'est par le peuple que la solution viendra. Pas d'un accord, pas d'un acteur politique. Je l'avais dit il y a une année, nous étions sur la même radio, je dis, il n'y a aucun acteur qui veut que les choses changent. Quand il y a crise, même les acteurs qui ne sont pas connus, ils sont connus. Quand Kiké Moulumba doit se permettre de dire, nous avions suivi au plateau, que ça c'était pour la consommation publique, parce qu'il sait qu'il n'a affaire à personne qui peut soulever la population. Et c'est comme ça que moi je demande, je supplie à Radio Capi que cette émission soit désormais à Lingala et en français. Comme ça que le peuple ait accès à comprendre tout ce que nous disons. Et qu'au moment opportun, les choses changeront. Je le crois, je suis congolais, je reste ferme. Les choses vont changer un jour dans ce pays.
Merci beaucoup, ingénieur Gaston, d'avoir participé à cette émission. Nous allons, vous nous excuserez de n'avoir pas lu certains messages, mais on est quand même très ravis du fait que les sujets postés le matin avaient déjà atteint plus de 3000 personnes. Merci à Loïs Sakaji, à Serge Mousségagno, à Sylvain Baengaya, tous les internautes qui ont accordé l'intérêt à ces débats. Aloïs estime que la démarche de la CENCO est tout à fait logique et salutaire, vu la manière dont les choses se déroulent au fur et à mesure. Cependant, mathématiquement, il convient de dire haut et fort que cette démarche est irréalisable. Fleur Secrète dit que c'est une bonne initiative prise par les évêques de la CENCO, car à part être pasteurs, ils sont congolais et ils ont l'obligation et le droit de placer un mot sur la politique de notre pays. Serge Mousségagno trouve la démarche bonne, mais en ces temps, l'heure est grave et on ne sait plus comment y croire, d'autant plus que les 90 jours prévus pour la convocation du scrutin commencent à courir déjà, quand bien même il n'y a pas encore de calendrier électoral. Sylvain Baega pense que les évêques ont raison, car au Congo, nous avons plus d'exemples à suivre. Au Congo, notre gouvernement n'a plus de leçons à nous donner. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Si vous nous avez pris en cours de cette émission, merci de l'intérêt que vous accordez à ces débats citoyens. Nous allons prendre rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro. Nous n'allons pas nous quitter sans pour autant dire merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Héritier Sidiakala, Nico Kalambay, Pierrot et Lameji. Ce programme vous a été supervisé par Martin Sebujangwe et coordonné et présenté par J.R. Lungembo, Luabung, Angie. À très bientôt.